Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Il y a 80 ans, l'appel du 18 juin, journée spéciale sur Bretagne 5.
Nous commémorons les 80 ans de l'appel du 18 juin sur Bretagne 5 en ce jeudi 18 juin et nous allons parler de Général de Gaulle et de son rapport à la Bretagne avec Luc Corlouer. Il est écrivain, conférencier, bien connu des auditeurs de Bretagne 5. Bonjour Luc Corlouer.
Eh bien bonjour à tout le monde.
Luc Corlouer, le Général de Gaulle et la Bretagne, j'allais presque dire, c'est une longue histoire.
Eh bien oui, c'est une longue histoire. Bon, vous savez que je suis passionné par l'histoire. Qu'en tant qu'historien, bien évidemment, le général de Gaulle faisait partie des projets, parce que un écrivain, un conférencier a toujours des dizaines de projets en tête. Et dans les conférences que je souhaitais faire, il y avait effectivement le général de Gaulle et la Bretagne. Alors c'est une longue histoire, oui, parce que l'histoire commence avec son oncle, qui s'appelait Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle était un homme du Nord, et il s'est passionné pour la Bretagne. Alors, ce Charles de Gaulle était né en 1837, et il avait des talents d'écrivain, de conteur aussi, on va dire, et sa passion pour la Bretagne et les pays celtiques s'est déclenché lorsqu'il était étudiant en lettres. Alors il était ami avec le fameux Théodore Ersart de la Ville Marquet, que tout le monde sur Bretagne 5 connaît pour être l'auteur du Barzard Braise, et ils se sont rapprochés tous les deux, et ils ont été membres actifs de la Breuriez Braise, la fraternité de Bretagne. Bon, c'est Villemarquet qui avait inventé cela sur le modèle des académies druidiques des pays de Galles. Et Charles de Gaulle n'était pas très bien portant. Hein. Je parle de l'oncle toujours. Il était paralysé suite à une maladie. Il résidait à Paris. Mais il s'est mis à apprendre le breton. Et là, il a écrit des poésies. Et il a lancé des vibrants hommages aux Celtes, aux Bretons, en 1864. Et donc, il a participé, et on en reparlera tout à l'heure, à un projet de colonie bretonne et galloise en Patagonie.
C'est assez inattendu.
Oui, il voulait faire venir des Celtes là-bas, de manière à créer une communauté autosuffisante, en autarcie, et qui parlerait la langue du vieux pays. Et ils vont lancer cette affaire, et on verra tout à l'heure que Charles de Gaulle, le neveu, appréciera moyennement qu'on le lui rappelle dans les années 60.
À un moment où l'on parlait justement de décolonisation, mais là on a été très vite dans l'histoire. Est-ce que le jeune Charles de Gaulle de l'appel du 18 juin, est imprégné de cette histoire familiale, de cette j'allais presque dire bretonitude un petit peu rapportée?
Alors oui, parce que à l'époque, lors des repas rituels, les enfants ne parlaient pas, et la famille de Gaulle passait en revue ce que faisaient les uns et les autres, et le père de Charles de Gaulle parlait de son frère très fréquemment et avait évoqué cette attirance particulière pour la Bretagne. Et d'ailleurs, en 1921, donc Charles de Gaulle est un jeune officier et qui vient juste de se marier avec Yvonne Vandroux, la fameuse tante Yvonne dont parlaient nos parents. Et elle était habituée, va-t-on dire, des vacances à Bénodet. Et le couple va suivre les habitudes familiales des Vandroux et va se rendre quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs fois d'ailleurs, à Bénodet, pour leurs vacances d'été.
Donc déjà, ce rapport à la Bretagne, là aussi, peut-être un petit peu au hasard quoi, de ce mariage avec Yvonne Vandroux et de ses habitudes familiales côté de son épouse, de l'épouse de Charles de Gaulle, évidemment.
Oui, oui, absolument. Et si l'on ajoute les deux histoires, donc celle de son oncle et celle de son épouse qui l'amène en Bretagne, eh bien, Charles de Gaulle va considérer la Bretagne avec une certaine affection.
Est-ce que, très vite, alors vous dites, Luc Corloir, il y a une affection pour la Bretagne, qu'est-ce qui l'attire dans la Bretagne? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il a laissé, justement, transparaître ses sentiments par rapport à la Bretagne?
Alors oui, on va revenir, ou plutôt on va se rendre très vite en 1940, après l'appel du 18 juin, je pense que d'autres spécialistes l'évoqueront sur cette antenne. Après l'appel du 18 juin, il faut savoir qu'il y a en Bretagne, l'appel est entendu de manière importante et il va y avoir à l'île de Sein, la plupart des navires et des hommes valides de l'île qui vont rejoindre la France libre à Londres. Mmh. Et la présence des Sénans, hein, donc des habitants de Sein, va être tellement importante dans les premiers contingents de la France libre, ils représenteront d'ailleurs dans les tout premiers Français exilés à Londres pour rejoindre la France libre, ils vont représenter un nombre important, ce qui fera dire à De Gaulle que l'île de Sein, c'est le quart de la France.
Phrase restée célèbre, s'il en est, prononcée par Charles de Gaulle. Alors on sait que plus tard, après le conflit, l'île de Sein sera faite compagnon de la libération. C'est assez rare, ce n'est pas une personne physique, c'est une île.
Voilà, c'est une île, et comme quelques villes, seulement quelques villes en France, effectivement, l'île obtiendra la distinction de compagnons de la libération, et on sait pourquoi, du fait de cette présence forte des Bretons de Sein à Londres.
Alors, Luc Corloir, durant ce conflit mondial, cette seconde guerre mondiale, où Charles de Gaulle va apparaître finalement au grand jour via le micro de la BBC, alors que jusque-là, il n'avait été que sous-secrétaire d'État à la guerre, dans le cabinet Paul Reynaud, entre autres, Charles de Gaulle va aussi avoir une attache en Bretagne, puisque sa mère vit en Bretagne, au moment où il doit quitter le sol de la France.
Oui, alors c'est effectivement un point important. Au-delà des hommes qui l'ont rejoint, sa mère est installée à Paimpont et c'est là, en 1940, qu'elle va mourir et Charles de Gaulle ne pourra pas se rendre à Paimpont puisque bon, il est à Londres et donc par conséquent, il aura toujours cette affection pour la Bretagne et pour Paimpont. En étant toutefois, on pourrait y revenir tout à l'heure, assez méfiant à l'égard de la Bretagne qu'il aime beaucoup par ailleurs.
Mmh. Qu'est-ce que c'était cette méfiance? Qu'est-ce qui provoquait cette méfiance?
Eh bien, on va revenir sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette fameuse colonie bretonne en Patagonie. Lorsque Charles de Gaulle, bien des années plus tard, lors d'un voyage en Argentine, se trouvera donc à Buenos Aires, on va lui remettre une lettre qui a été écrite par son oncle, hein, le fameux Charles de Gaulle, et dans cette lettre, qui vante les mérites de l'établissement d'un foyer national breton outre-Atlantique...
Rien que ça, eh bien,
oui. Alors, cette typologie de foyer national breton, il va en prendre un peu ombrage, dont lui, on connaît le patriotisme de Charles de Gaulle, hein, sourcilleux, et ben il a peu apprécié qu'on lui remette ce document, et la méfiance qu'il va avoir, non pas à l'égard de la Bretagne et des Bretons, mais peut-être de certains Bretons, c'est surtout... La propension de certains à vouloir être indépendant. Et ça, il ne l'acceptera jamais. Et de toute façon, pour lui, la Bretagne est une région de France que, absolument comme une autre, sans plus ni moins de droit.
Alors, Luc Orloër, cet attachement à la Bretagne, à la fois cette méfiance de ceux qui voudraient éventuellement se détacher de la France, si chère à De Gaulle. De Gaulle va pourtant faire beaucoup de choses pour la Bretagne. On se souvient, lorsqu'il va revenir en 1958 après sa traversée du désert et lorsqu'il va s'installer à la présidence de la République, on va voir beaucoup de choses qui vont se faire en Bretagne. On pense au CNET, à Lannion, le Centre National d'Études des Télécoms, on pense au barrage de la Rance, on pense à beaucoup de réalisations qui avaient été lancées souvent un petit peu avant De Gaulle, mais que lui va concrétiser finalement.
Alors oui, il va effectivement être assez présent en Bretagne, d'ailleurs pour un chef de l'État qui n'en était pas originaire. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait eu un jour un chef de l'État originaire de Bretagne. Bon, en tout cas, lui n'était pas breton, on va dire, d'origine ou breton d'adoption. En tout cas, il va se rendre fréquemment en Bretagne, je crois 9 fois. Et il va, et d'ailleurs, dès la libération en 1944, lorsqu'il arrive à Rennes, c'est vraiment sa première visite après la libération, va-t-on dire, eh bien, il fait une entrée triomphale. On parle de plus de 20 000 personnes et il va déclarer d'ailleurs au balcon de l'hôtel de ville « Quelle émotion est la nôtre de nous trouver rassemblés dans Rennes libérée, dans la Bretagne victorieuse, où les guerriers allemands qui ont souillé son sol sont en train de disparaître comme morts ou prisonniers. » Il va remercier la Bretagne d'avoir été aussi présente. Et d'ailleurs, un an plus tard, il va à nouveau effectuer un périple en Bretagne. Et là, il va faire le tour de plusieurs villes de Bretagne. On le voit à Saint-Brieuc, à Guingamp, à Morlaix, à Brest, à Douarnenez, à Quimper, à Lorient, à Vannes, à Saint-Nazaire. Et il va effectivement avoir en tête d'aider la Bretagne à, alors pardonnez-moi l'expression, mais peut-être à sortir de la fin du 19e siècle. Mmh. Et même, et vous avez eu raison de le souligner, même si ce n'est pas lui qui va initier un certain nombre de projets, je pense aux quatre voies en Bretagne par exemple, eh bien en tout cas, c'est lui qui va faire en sorte que les projets aboutissent. Alors vous avez parlé effectivement du CNET à Pleumeur-Baudou et à Lannion. Il y a aussi le barrage de la Rance et un événement que les Bretons n'ont pas oublié et à Bretagne 5, on ne peut ignorer cela en Loire-Atlantique, c'est le lancement du paquebot France, du fameux quai de Saint-Nazaire.
Voilà, qui sera le fleuron de l'industrie navale française. Et puis il y aura aussi, il faut le préciser, le côté militaire. Charles de Gaulle était un général, évidemment, et il y aura la création des bases militaires. Alors on pense à la force de frappe avec l'île Longue, on pense aussi aux marins aviateurs de l'Andivisio. Là aussi, c'était une volonté que la Bretagne soit une forme de tête de pont militaire.
Oui, parce que il savait que dès lors qu'il y a la mer ou l'océan, les Bretons ne sont jamais loin. Et vous avez cité effectivement des bases d'aéronavales ou maritimes, et on peut parler aussi de Brest. Il a notamment fait une visite d'importance en 1965. Il vient en Bretagne, non pas, enfin si aussi, comme chef de l'État, mais surtout comme chef des armées. Mmh. Il inspecte l'école navale, ensuite Saint-Cyr Couette-Quidan, qui connaît très bien, il va aller à Brest et motiver la marine, qui n'en a pas besoin, mais il va leur rappeler que dans le cadre de la nouvelle force de dissuasion, eh bien, ce seront les premiers à voir entre leurs mains cette fameuse arme atomique. Mmh. Et depuis, l'histoire ne cessera pas. Vous avez cité l'île Longue. Aujourd'hui, les sous-marins nucléaires sont toujours dans cette zone de défense.
Alors, De Gaulle et la Bretagne, c'est aussi le départ de De Gaulle, puisque en 1969 arrive le référendum, De Gaulle va partir, il s'y était engagé, s'il n'était pas, en tout cas si les Français le désavouaient, mais auparavant il fera son dernier discours, et c'est symbolique, dernier discours qu'il fera à Quimper.
Et oui, alors c'est symbolique, et comme je vous l'ai dit, il a fait 9 voyages officiels en Bretagne, hein, je ne compte pas les périodes où il y allait en vacances ou en déplacement privé. Donc 9 déplacements importants, et effectivement, lorsque le référendum, on se souvient de oui ou du non, eh bien là, ça a été le non, eh bien c'est à Quimper qu'il va faire son dernier discours officiel en 1969, donc, et il va démissionner. Et de là, après sa démission, il va partir pour un autre voyage et il ne va pas choisir un pays du Sud, non. Il va, et on a tous vu ces images de De Gaulle se promenant sur les Landes de la verte Irlande avec son épouse, avec tante Yvonne. Et par conséquent, là encore, c'est un message peut-être de respect envers ceux qui avaient toujours été fidèles à la France, en tout cas à la France libre et à De Gaulle. En général.
Et Luc Orloir, il faut préciser, lors de ce discours de Quimper, peu de temps avant le départ de Gaulle du pouvoir, il va parler breton et il va citer Charles de Gaulle, l'autre Charles, son oncle.
Et oui, parce que il va effectivement, enfin, parler breton, il va répéter des mots qu'on lui a appris en breton. Il va citer ce fameux oncle Charles de Gaulle qu'on a vu que lorsqu'il était aux fonctions et aux plus hautes fonctions de l'État, il avait pris soin de pas trop ségréguer les Celtes des autres Français. Et là, eh bien, un peu comme un pied de nez. Aux Français qui n'avaient pas voté pour la continuité avec lui, il va effectivement citer son oncle qui voulait créer cette colonie bretonne qui lui déplaisait tant quand il était chef d'État et parler breton pour remercier les Quimperois, mais à travers les Quimperois, l'ensemble du peuple breton de leur participation et de leur fidélité.
Alors, Luc Orloir, on dit que le général de Gaulle avait décidé qu'il n'y aurait pas d'autoroute en Bretagne et que les voies express resteraient gratuites. Alors, légende ou réalité ?
Alors, vous savez, c'est toujours difficile de prendre parti parce que, certains datent cela d'Anne de Bretagne, où il ne devait pas y avoir de route à péage en Bretagne. Je pense que, en tout cas pour moi, hein, c'est mon analyse, et ceux qui ne sont pas d'accord avec cela ne m'en voudront pas, je pense que la volonté, pas seulement de De Gaulle, mais des politiques et des gens qui participaient à la vie politique à l'époque, était surtout de désenclaver la Bretagne et faire des routes à péage alors que les Bretons n'étaient pas très riches. Je vous rappelle, moi, Stéphane, que je fais partie d'une famille de Bretons qui a émigré vers Paris parce que la vie était compliquée en Bretagne. Et des centaines de milliers de Bretons ont fait la même chose. Donc il fallait désenclaver la Bretagne, et on l'a vu avec le TGV aussi, même si les premières lignes ont été des lignes sud-est. Eh ben, la Bretagne a été aussi une des régions qui a bénéficié au plus tôt du TGV. pour la désenclaver. Et quand on regarde maintenant cette nouvelle carte de France, hein, avec les lignes grande vitesse, on se rend compte que, en tout cas théoriquement, la Bretagne s'est rapprochée de Paris. Hein, Paris, où encore aujourd'hui, tout se décide et tout se fait. Mais ça, le Breton, il a toujours eu l'habitude de ça. Hein.
Alors, la décentralisation, c'était aussi De Gaulle, hein, le départ de la décentralisation.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, alors lui, Debré, enfin tout ça suivait la 5e République de 1958. Mais on sait que, par exemple, De Gaulle était pour la décentralisation et a tout fait pour qu'elle ait lieu. Et d'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui dans le discours du président de la République hier. Il a dit qu'il faut donner plus de pouvoir aux régions, aux départements. Et on rappellera que De Gaulle avait visité pratiquement 8 ans l'ensemble des préfectures et sous-préfectures des 90 départements, dont par conséquent des 5 départements bretons également.
Puisque à l'époque, justement, le général de Gaulle voulait préparer un grand plan de décentralisation qui ne sera pas mis en œuvre, justement, là encore, parce qu'il partira en 69.
Oui, alors il y a beaucoup de choses qui seront mises en œuvre parce que le général de Gaulle les avait engagées. Je pense notamment le Concorde qui a été produit par la suite, le TGV qui était déjà dans les réflexions, même si c'est Giscard d'Estaing qui l'a mis en œuvre. Mais effectivement, il avait des plans de décentralisation qui devaient aller beaucoup plus loin. Mais en se réservant quand même, il faut être honnête, en se réservant quand même, on va dire, le pilotage est à partir de Paris. Hein, parce que la 5e République est quand même, quelque part, un tantinet monarchique. puisque les décisions, enfin, le général de Gaulle, en tant que président de la République, c'était un homme qui en imposait formidablement, et les Français, en grande majorité, avant les événements et la guerre d'Algérie, étaient très favorables au général de Gaulle. Moi, je me souviens, dans ma famille de Bretons, peu importe ce que de Gaulle pouvait faire, il l'avait en admiration.
Alors justement, De Gaulle, c'était l'histoire, il avait cette légitimité historique du fait de la guerre 39-45 et de la libération du sol français. De Gaulle, est-ce qu'on peut dire que c'était le dernier roi de France ?
Alors, même si les présidents de la République qui ont succédé ont peut-être tenté de vraiment de mettre leur empreinte, en tout cas... Lui, oui, je pense qu'il a eu cette aura et je pense qu'il avait aussi une légitimité impressionnante. Cet homme seul qui se retrouve, on le verra dans la lecture de la rencontre à Londres, mais cet homme seul à Londres qui tient toute la France libre à bout de bras. Je rappelle que l'appel du 18 juin n'a pas été entendu par la majorité des Français, loin s'en faut. Et donc, il a assis sa légitimité vis-à-vis de ce qu'il a fait, vis-à-vis de la manière dont il a négocié avec les Anglais. Il n'était pas considéré comme la portion congrue des Alliés. Et ensuite, aussi avec les Américains et les autres alliés à la fin de la guerre. Donc ça a été peut-être un monarque, quoique François Mitterrand a aussi quelque part marqué par sa manière de gouverner et son intelligence politique. Hein. Je ne dis pas que je suis en admiration de Mitterrand, je dis qu'il avait de l'intelligence politique, forcément.
Alors, Luc Orloër, Charles de Gaulle, c'est cette partie de l'histoire de France, c'est cette partie aussi de l'histoire de la Bretagne, on l'évoquait à l'instant. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui en Bretagne et même un peu plus largement en France de Charles de Gaulle ?
Alors, en Bretagne, bon, il reste quand même, comme dans le reste de la France, l'homme qui a effectivement conduit à la libération. Mais au-delà de l'histoire proprement dite, il reste peut-être celui qui a permis de... Alors, certains le regrettent, hein, mais en tout cas, mooi, je constate que il a permis à la Bretagne de passer dans une ère nouvelle. Mmh. Alors, avec tous les avantages liés à l'emploi, au développement des industries, mais aussi, probablement, avec une perte quelque part de l'identité quand on désenclave, on s'ouvre vers l'extérieur. Et moi, je suis aujourd'hui surpris de voir le brassage de population qu'il y a depuis quelques décennies en Bretagne. Mmh. Il y a eu des changements significatifs et tout ça, c'est lié au fait que la Bretagne s'est ouverte vers l'extérieur et que l'extérieur est venu aussi vers la Bretagne. Des échanges de population se sont produits, en fait. C'est assez curieux. Oui, observez.
Alors, un dernier mot. Vous parliez tout à l'heure de la solitude du général de Gaulle lorsqu'il part à Londres en 1940. On sait qu'à ce moment-là, il a failli ne pas partir. Il était surveillé par la police française qui aurait bien voulu l'arrêter, l'empêcher de partir à Londres. D'autant qu'on savait que le général de Gaulle, lui, voulait poursuivre le combat, ce qui n'était pas le cas de Pétain, par exemple, en France.
Alors oui, bien évidemment, ils auraient aimé le retenir et même probablement l'emprisonner. Ce qui a été le cas pour notamment, bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais sur le Massilia, les parlementaires qui sont partis de Bordeaux. Et de Gaulle, lui, a eu effectivement la possibilité de pouvoir partir. Et d'ailleurs, on rappellera aussi que sa femme et ses proches vont embarquer de Brest peu de temps avant l'appel pour le rejoindre. Donc là encore, la famille a réussi à quitter le sol français pour le rejoindre à Londres, parce que là, il aurait été vraiment seul si sa famille ne l'avait pas rejoint.
Alors, le général de Gaulle arrive à Londres, va lancer son appel. On va en parler toute cette journée spéciale sur Bretagne 5 et on va vous retrouver, Luc Orloir, autour du général de Gaulle et des lectures qui vont nous mener même jusqu'en 14-18 tout au long de cette journée sur l'antenne de Bretagne 5. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour évoquer le général de Gaulle et plus précisément son rapport à la Bretagne. Merci infiniment, Luc Orloir. Je rappelle que vous êtes écrivain, conférencier, historien et que voilà, vous nous avez emmené dans l'univers du général de Gaulle, l'univers breton du général de Gaulle. Merci infiniment.
Eh bien, merci à tous et bonne journée à l'écoute de Bretagne 5.
Journée spéciale sur Bretagne 5. Il y a 80 ans, l'appel du 18 juin.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.